Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 60.
Ah oui, 60 déjà.
Eh oui. Bien, on va commencer cette semaine, comme d'habitude, avec le numéro de la semaine.
Avec le mot de la fin. Bien sûr.
Moi je dis pourquoi pas, après tout.
Surtout que j'en avais un, mais je m'en souviens plus. Donc voilà.
Bah, Alzheimer. D'ici la fin, tu pourras le retrouver.
Bah peut-être.
Eh bien, je te laisse commencer le numéro de la semaine.
Ouais, alors mon numéro de la semaine, c'est le Gotham Knights 60. Alors Gotham Knights, c'était l'une des séries régulières Batman qui n'existe plus maintenant. Et le numéro 60, au fait, commençait un arc avec un méchant que j'adore, c'est Hush. Donc il était très présent en fait dans ce titre, puisque l'auteur à l'époque, qui était A.J. Lieberman. Alors A.J. Lieberman, pas super connu, mais pourtant il a fait de très bonnes histoires de Batman, notamment à cette époque-là. Dans ce titre, je crois que c'était en 2003-2004, si je dis pas de bêtises, enfin... dans ces eaux-là, en tout cas. Et c'était le début d'un arc où, au fait, c'était le retour de Poison Ivy. Batman essayait de mettre fin à ses sombres dessins. Voilà, ça s'est fait. Choix malheureux.
La blague sous-jacente.
Non, mais j'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est le mot qui est sorti. Et donc, Hush et Batman, au fait, se retrouvaient un petit peu au milieu de ce combat, et tous les deux, sans s'en rendre compte, tomber amoureux de Poison Ivy à cause des phéromones et essayer de gagner son amour.
Moi je dis déjà, il n'y a pas vraiment besoin des phéromones.
Oui, mais enfin voilà, donc petit à petit, sans s'en apercevoir, il y avait une espèce de rivalité en plus qui se créait supplémentaire entre les deux pour gagner le cœur de Poison Ivy. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est peut-être à la fin Poison Ivy qui en pâtissait le plus, quoi.
Comme s'il y avait déjà besoin de rajouter ça, alors que déjà les deux mecs ne s'aiment pas.
Voilà. Et franchement, c'était un arc génial. Très très bonne histoire de Batman, et j'encourage les gens qui n'ont pas connu tellement ce titre, parce que c'est vrai que c'est un petit peu passé sous silence.
Ouh là là.
Je t'encourage à lire ce run, le run donc d'A.J. Lieberman, qui doit commencer au 50 et se terminer au 75 ou 74, puisque le titre s'est arrêté.
Au 75, je dirais, moi
je dirais peut-être 74 finalement, ou même 73, qui sait. Enfin bon, voilà.
Donc était la dernière histoire était avec Hush aussi, si je me
rappelle. Oui, bah quasiment toutes les histoires d'ailleurs de son run sont avec Hush, donc comme ça c'est plus simple. Mais c'est de la bonne cam, hein, c'est de bonnes histoires.
Et Jay Lieberman a bien disparu d'ailleurs depuis.
Bah ouais.
Je sais pas trop ce qu'il fait.
Bah non, je sais pas. Ou peut-être qu'en même temps il faisait pas que du comics, donc peut-être qu'il a retourné à ses anciennes occupations.
Ou peut-être est-il devenu éditeur aussi, parce que généralement c'est vrai qu'on ne regarde pas assez le nom des éditeurs. Bref. En tout cas, oui, c'est vrai que c'était une bonne époque, ces Gotham Knights.
Ouais, non, c'était vraiment bien. Et puis avant, il y a eu d'autres auteurs aussi qui sont passés avant lui, qui étaient des auteurs plus habitués à Batman.
Pour ma part, ce sera le Marvel Fanfare numéro 60, le volume 1, puisque c'était le dernier épisode de cette série. Marvel Fanfare, c'était un magazine un peu haut de gamme à l'époque. Ça a commencé en 1982.
C'était le magazine préféré de Patrick Sébastien.
Alors là, je ne vois pas.
Oh, je sais pas, la fanfare, tout ça, ça me fait penser à lui.
Ah ouais, d'accord.
D'accord, voilà. Voilà, ça ne tient qu'à ça.
D'accord, je comprends mieux maintenant. Et en fait, dans ce magazine, ce qu'il y avait, c'est qu'ils avaient donc déjà, c'était vendu en direct et donc pas dans les presses, dans les kiosques, etc. Ce qui à l'époque était quand même une rentrée d'argent vraiment en moins.
Ouais.
Et puis, il était sans publicité et sur du papier, le papier qui était dédié aux couvertures à l'époque. Ce petit papier légèrement glacé, toutes les pages comme ça étaient. Enfin, toutes les pages à l'intérieur étaient de ce même type de papier-là.
D'accord.
C'était vraiment un...
du haut de gamme, quoi.
Voilà, un magazine de luxe avec des histoires, plusieurs petites histoires réalisées par des gros noms, en général. Et donc, le titre s'est arrêté... Alors, il sortait tous les deux mois, donc il s'est arrêté en fin 91, début 92, ça dépend comment on compte, si on compte sur le mois de la couverture ou le mois de sortie réel. Ça a duré quasiment 10 ans. C'est édité par Al Milgrom, quand même.
Ouais, non, mais Al Milgrom, d'ailleurs, alors je veux pas dire de bêtises, mais...
Encore.
Oui, mais est-il toujours parmi nous? Oui, quand même.
Oui. Ouais. Non, mais toujours vivant, hein. Enfin, je crois.
Hein. Ouais. Notamment passé sur du Spectacular Spider-Man pendant des années.
Oh, mais il a fait beaucoup de choses. Il a aussi pas mal ancré les Vengeurs. Il a fait énormément de choses. Puis il est éditeur aussi.
D'accord.
Il a vraiment touché un petit peu à tout. Donc, dans ce numéro 60, on avait une première histoire de Black Panther par Walter Simonson au scénario et Dennis Cowan au dessin.
Ouais.
Ensuite, on avait une histoire sur Rogue et Mystique par Innocenti et Dave Ross. Et la chose la plus marrante, c'est une dernière histoire de Paul Smith, où il était aussi au scénario, c'est la première fois qu'il était au scénario. C'était une petite histoire sur Daredevil, où il y avait le Père Noël, enfin un gars qui se faisait passer pour le Père Noël, enfin tu sais, les espèces de gens qui habillé en Père Noël dans
Oui,
les rues,
tout à
qui
fait,
chante,
oui.
et puis qui demande un petit peu d'argent comme ça. Et l'intérêt de cette petite histoire, c'est que dans le tout premier Marvel Fanfare, il y avait eu une histoire dessinée par Paul Smith, justement, avec ce personnage-là. Et donc
D'accord.
c'était une espèce de suite qui avait lieu pour le dernier numéro. On faisait un rappel au premier numéro. J'ai trouvé ça assez intéressant comme concept. Voilà, c'était sympa. Par contre, un truc qui est très énervant, c'est le lettrage. Pour ce backup-là, en tout cas, enfin, pour cette histoire de Daredevil, le lettrage est horrible.
D'accord.
Je le trouve très moche, à la limite du lisible, quoi.
Mais sinon, pour en revenir au Père Noël, c'est le vrai Père Noël, hein, Steve.
Oui,
On te fait croire que
oui,
c'est des gens déguisés à chaque fois, mais c'est le vrai. Il n'y en a qu'un.
Donc
Voilà.
voilà, enfin, la première histoire qui a été publiée dans Marvel Fanfare avait été publiée dans un Strange, justement, un épisode de Daredevil, enfin, était passé pour un épisode de Daredevil normal, alors qu'en fait, c'en était pas un. Et
D'accord.
je me rappelle encore très bien de ce premier épisode, et donc là, dans ce Marvel Fanfare, on avait cette
D'accord.
suite. Voilà. Donc c'était la fin d'un magazine de luxe, puisque, bah, tout simplement, ça ne se vendait pas. Une chose marrante aussi dans Marvel Fanfare, c'est qu'il y avait à chaque fois une petite introduction, un peu dessinée façon Fred M. Beck, qui était un
D'accord. Ah oui.
cartooniste que l'on voyait souvent dans les parutions Marvel, qui faisait un petit peu ce que fait
Des
Audrey Lubb
parodies, quoi.
aujourd'hui à la fin des Hulk, quoi.
Ouais, des trucs totalement parodiques.
Voilà, bah c'était un peu comme ça, il y avait toujours Al Milgrom qui présentait le numéro. C'était assez
D'accord.
marrant, dans chaque épisode de Marvel Fanfare, on avait ça. Et donc là, dans celui-ci, il disait au revoir, et il expliquait pourquoi le magazine s'arrêtait. Voilà, c'était sympathique, quoi, pour
S'est
le
pas
coup.
arrêté en fanfare, quoi.
Non, justement. Ok, bon, après avoir perdu vachement de temps là-dessus, on va passer aux news.
Et donc, au rayon des news, cette semaine, il y a essentiellement du Marvel. Au fait, DC a tellement communiqué ces derniers temps que, bah, ils n'ont plus rien à annoncer.
Oui, je crois que c'est pas la peine qu'ils communiquent plus.
Oui, voilà.
Sinon, on pourra tous acheter directement les numéros 2 parce qu'on saura déjà tout ce qui se passe dans les numéros 1.
Ouais. Non, mais là, ils jouent plutôt bien la carte du teasing, puisque, très franchement, il y a énormément de questions que je me pose pour les numéros 1.
Bah, comme tout le monde, hein, je pense. Hein.
Alors que chez Marvel, c'est un petit peu le contraire, on va encore le voir avec les news du jour, puisque Marvel a la fâcheuse habitude de tout révéler avant la sortie des comics en question.
Oui.
Ouais. On va peut-être commencer avec les Avengers, parce qu'il y a eu pas mal de news sur les Avengers.
Tu m'étonnes.
Donc, bah, à partir de novembre, c'est le retour des Dark Avengers, mais ils vont s'appeler les New Dark Avengers en réalité. Déjà. Donc Norman Osborn va revenir sur le devant de la scène à partir de septembre, au fait, dans le numéro de New Avengers 16.1. Encore un 16.1, mais cette fois-ci dessiné par Neal Adams. Donc,
Monsieur, ni madame, c'est
voilà, ce sera quand même de la bonne came. J'ai vu quelques images. Franchement, ça a de la gueule. Donc j'attends ce numéro avec impatience. Et puis en plus, le retour de Norman Osborn, ça fait un double. Enfin, pour moi, c'est un double intérêt conséquent, quoi.
C'est ce que j'expliquais à Brian qui me demandait ça sur Facebook. Donc je vais réexpliquer ici.
Ouais.
Pour moi, enfin, voilà ce que je pense. Pourquoi fait-on revenir Norman Osborn et les Dark Avengers? Finalement, quand Bendis était en charge de l'univers, ça vendait plutôt pas mal. Dark Reign a intéressé beaucoup de gens et les Dark Avengers ont bien marché. Aujourd'hui, on a mis Fraction en charge, on voit Fear Itself, ça vend, mais les reviews en général, les critiques des gens sont assez acerbes, on va dire. Les gens n'aiment pas Fear Itself.
Ouais.
Malheureusement. Les gens achètent mais n'aiment pas. Enfin, ça c'est le paradoxe, mais c'est comme ça.
Enfin, il y en a qui aiment, hein, cela dit.
Oui, il y en a qui aiment, mais enfin dans l'ensemble, les critiques sont plutôt négatives. Enfin, moi, ce que j'en vois, c'est que c'est plutôt négatif.
Ouais.
Je pense qu'on s'est dit, bah tiens, ça marchait bien. Fraction, ça fédère pas du tout. Bah, on va peut-être faire rappeler ce qui marchait, c'est-à-dire Norman Osborn. Parce que voilà, il fallait bien que ça rentre. Et enfin, Bendis, qui lui a été mis à l'écart depuis l'arrivée d'Axel Alonso, je pense qu'il doit bien jubiler, quoi.
Ouais, bah il manque, hein, finalement.
Mais je pense que le mec intérieurement doit se dire ah, on me rappelle maintenant que ça marche plus, hein.
Moi, franchement, il me manque tellement, tellement c'est mauvais.
Et c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, on disait Bendis, ouais, il décompresse, machin, il nous fait chier, il nous saoule, quoi. Il serait peut-être temps qu'on passe à autre chose parce que ça fait trop longtemps qu'il soit Avengers, il a plus rien à dire. Ouais, finalement, on le regrette. Ça
Bah ouais.
devient grave. Moi, je dis ça devient grave, quoi.
Enfin, ce que je regrette surtout, c'était Osborne, puisque Osborne avait été mis au placard, tout comme Bendis. Et bon, bah c'est vrai que le meilleur travail de Bendis ces dernières années, pour moi, c'était Dark Avengers, de toute façon.
Sur le mainstream, ouais.
C'était ce qu'il y a de
Mais
plus intéressant, quoi.
c'était intéressant, c'est clair.
Voilà.
Mais c'est dingue, c'est que, enfin, je ne cesse de le dire en ce moment, mais je regrette Secret Invasion.
Ah non, moi pas. Moi, Dark
Comparé à
Reign.
Fear
Dark Reign.
Non, mais comparé à Fear Itself, je veux dire, en termes
Ah oui.
d'event, je regrette Secret Invasion. Quoi.
Ouais, non, moi aussi, oui. Ou alors, bien sûr, Civil War, quand même.
Oui, bien sûr, mais je compare avec quelque chose de Bendis, quoi. House of M était quand même mieux.
Bon, ouais, non, c'était différent. Disons que ça touchait pas vraiment tout l'univers, hein, malgré tout. C'est des
C'est un
chansons.
univers alternatif de toute façon.
Ouais. Donc alors, bah alors, ces fameux New Dark Avengers, alors pour le moment, on ne sait pas s'ils vont tenir une série régulière. Moi, j'ai pas vu passer l'info. J'espère que ça arrivera, parce que franchement, c'était la meilleure série Avengers scénarisée par Bendis.
Je pense qu'il faut peut-être pas précipiter les choses.
Ouais.
Qu'ils prennent son temps un petit peu, hein, pas trop, mais un petit peu parce que tout relancer d'un coup, ça risque de noyer le marché.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais de toute façon, il y a des équipes vraiment inutiles parmi les Avengers, on va y venir. Bon, toujours est-il que dans ces New Dark Avengers, alors à part Norman Osborn, on retrouvera un petit peu l'équivalent de Hulk, l'équivalent de Spider-Man, l'équivalent d'Hawkeye, l'équivalent de Thor, etc.
Alors, qui seront ces nouveaux gens, ça, par contre?
Alors, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Visiblement, le Hulk, il y a de fortes chances que ce soit Scar, je pense. Le Hawkeye, alors mystère, puisque Bullseye est décédé.
À moins que Bullseye ne revienne d'ici là.
Ouais, moi je penche plutôt pour quelqu'un d'autre. Iron Patriot, à mon avis, s'il doit y avoir un Iron Patriot ou un équivalent, à mon avis, cette fois-ci, ce sera pas Norman Osborn.
Bah, je pense que ce serait mieux s'il n'était pas sous un costume. Ce serait, y aurait plus d'impact.
Bon,
Qu'il
et
soit vraiment
imaginez.
juste en chef d'équipe.
Alors attention, là, ce serait vraiment pas mal, son Spider-Man. Et si c'était Venom Flash Thompson?
Ça voudrait dire qu'il est sanctionné par le gouvernement, puisque Thompson bosse pour le gouvernement.
Ou bien alors que Thompson, justement, décide de se barrer.
Après peut-être Spider Island, il faudra voir.
Peut-être qu'il va se retourner contre le gouvernement, peut-être que Venom va le corrompre, peut-être que... Enfin voilà, il y a 56 000 solutions.
Moi,
Mais...
je pencherais plus pour Anti-Venom, tu vois.
Ah, anti... Mais non, parce que... Et voilà, donc transition. Merci Steve.
Je t'en prie, je n'ai pas fait exprès, mais
Mais bien...
je prends quand même le compliment.
Oui. Transition. Normalement, on a cette fameuse équipe des Revengers qui vont affronter les Avengers dans peu de temps. Et ces Revengers menés par, j'ai oublié son nom,
Wonderman.
Wonder Man, et bah compte dans son équipe anti-Venom, justement. Voilà. Donc, on risque pas de le retrouver dans les New Dark Avengers. Enfin, j'espère. Ce sera un petit peu une pirouette, quoi, après. Donc, alors,
Carnage.
ouais. Et alors, du
Moi
coup,
je dis carnage. Il reste que ça.
Ah, Carnage, oh, ça m'étonnerait. Tu vois, il est plus aussi populaire qu'il ne l'était. Mais alors, par contre, les Revengers, on a les noms. Donc, on retrouve Atlas, Deman, Goliath. Alors, Goliath, tiens, étonnant. Century, Captain Ultra et Devil Slayer.
Que des gens super connus donc.
Oui, voilà.
On sent tout de suite l'attachement profond à l'équipe.
Ouais, parce que Century, en fait, c'était l'Indien qu'il y avait dans Force Works, pour te dire à quel point
Oui,
c'est
bah oui,
obscur.
je me rappelle très bien de ce personnage.
Par contre, Goliath, mais Goliath était mort durant Civil War, et là,
Ouais.
ça semble être, il ressemble vraiment à l'ancien Goliath.
Alors peut-être un nouveau sous le costume de Goliath.
Ouais. Black aussi, hein, vraiment,
Bah oui.
même physique, même tête, enfin voilà. Peut-être qu'il avait un frère, tout simplement.
D-Man, le personnage ultra populaire hein, quand
Oui, qui s'habillait à la Daredevil et surtout à la Wolverine aussi en même temps.
même. Ouais, un mélange entre les deux.
Ouais.
Ouais, bon, on verra bien, ça sera peut-être super sympa. Hein.
Alors, ils apparaissent dans les New Avengers Annual numéro 1, qui devrait sortir incessamment sous peu. Et
D'accord.
voilà. Que dire d'autre? Bon, les titres Avengers vont être remaniés. Avengers sera plus le titre autour de Captain America, donc Steve Rogers, le seul, l'unique. Et New Avengers, ce sera plus l'esprit familial, tu vois, qui a déjà un petit peu dans le titre, famille de Vengeurs.
Ouais, avec Luke Cage et compagnie, quoi.
Voilà, on imagine qu'il sera toujours là avec Ben Grimm, si Ben Grimm n'est pas mort durant Fear Itself.
Ben
Ça
non.
m'étonnerait, bah non, puisqu'il y a Fantastic Four.
Oui, il y a les teasers, voilà.
Oui, en plus, oui. Oui, mais c'est plus de surprise, hein, c'est
C'est
incroyable.
bien, c'est qu'on sait que le mec va revenir lui-même. En tout cas, il n'y a pas de séquelles physiques de son passage. Je sais plus, en Wardy, ça s'appelle, voilà. Et qu'en plus, il intègre l'équipe, donc finalement, il n'a pas non plus perdu la tête complètement. Enfin, il est toujours dans l'équipe des 4 Fantastiques. Donc, voilà. C'est bien. Merci qui? Merci Marvel.
Merci, merci Marvel, oui. Donc à partir de l'épisode 18 de New Avengers, Osborn est de retour avec au dessin Mike Deodato, hein, puisque c'était lui qui a assuré tout le run
Des
des
Dark
Dark
Avengers,
Avengers.
ouais.
Donc très bonne nouvelle. Et ça va déboucher tout ça sur la Hammer War, donc ça va être l'Event Avengers des prochains mois, après Fear Itself, la Hammer War. Et ensuite seulement... On nous dit que ce serait la fameuse, alors attention, parce que si ça porte ce titre-là, ça va faire redondant, la fameuse Ultra Noire,
Ouais,
voilà.
dont on entend parler depuis longtemps et qu'on a eu déjà des prémices
Oui.
Des Avengers, le premier arc, quoi,
Oui,
le dessin.
dont on a eu aussi un teaser dans le 12.1 de Avengers ou New Avengers, je ne sais plus à force, puisque.
Oui, c'était celui où il y avait justement Ultron.
Et Brian Hitch au dessin, qui devrait du coup signer les épisodes en question de la Ultra Noire, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, parce que Brian Hitch n'est pas très rapide. Voilà. Et John Romita Jr. d'ailleurs devrait prendre des vacances d'Avengers et être remplacé par Daniel Acuna.
Ça va nous en faire aussi, donc.
Mais peut-être, peut-être.
Bah oui, parce qu'il est quand même, franchement, faut le dire, il n'est pas très inspiré sur Avengers, quoi. Il fait, je trouve, le minimum syndical.
Oui, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ça va nous faire des vacances. Oui, ça va nous faire des vacances. Oh, des vacances. Oui, ça va nous faire des vacances, effectivement, puisque c'est pas terrible, terrible. Effectivement, ça fait 20 numéros que là, il traîne la patte.
Ouais, bah ouais, voilà, enfin, c'est du John Romita Junior, donc déjà, si on n'aime pas, de toute façon, on n'aimera pas, mais même pour les gens qui aiment, je trouve que, il fait vraiment pas grand-chose, quoi.
Enfin voilà, bon bah
Ça fait beaucoup de news, hein, Avengers, tout ça.
Oui, ça fait beaucoup News Avengers,
Ils
il y
essayent
avait
de remettre le couvert et d'essayer de faire repartir la machine telle qu'elle était il y a de ça 2 ans maintenant.
Alors il y avait
Ça
d'autres
marchait à
petits
l'époque.
détails. Oui, ça marchait très bien même, mais d'autres petits détails qui sont tombés. D'ailleurs, je me demandais si les Secret Avengers allaient durer longtemps. Apparemment, ça continue, Secret Avengers. Et puis d'ailleurs, Moon Knight sera tie-in à la Hammer War, puisque Moon Knight est un membre de Secret Avengers, à moins qu'il ne soit plus dans l'équipe, je ne sais plus. Je dois dire
Bah,
que je suis tellement avec assiduité cette.
sachant qu'il a déménagé sur la côte ouest,
Ouais.
je sais pas s'il peut faire vraiment partie de l'équipe. Bon, je
Bah,
sais que ça ne gêne pas Wolverine, en tout cas, d'être sur la côte
oui,
ouest.
ça doit pas gêner Moon Knight non plus, puisque c'est une équipe à lui tout seul.
Ah, dans sa tête, ouais.
Oui, il fait les Avengers de la côte ouest, justement. Mais tout seul. Voilà, bon bah voilà pour les News Avengers, pour le bloc Avengers, j'ai envie de dire, on va passer.
Ça, moi je dis, enfin, en tout cas, sur le papier ça a l'air prometteur. Après c'est souvent comme ça, sur le papier c'est prometteur, après quand on le lit c'est pas forcément toujours ça. Faut voir, Bendis nous a déjà surpris en bien plusieurs fois, il nous a aussi surpris en mal plusieurs fois.
Le problème actuel, c'est que de toute façon, il tease tellement qu'on nous tease même la fin de l'event avant le début, donc au final tout est gâché quoi à chaque fois.
Ouais, bah il faudra voir. C'est vrai que quand on est obligé de suivre les news un petit peu, bah, pour en parler comme ça dans le podcast, ce genre de choses, généralement on a beaucoup moins de surprises, quoi.
Et du coup, on continue dans le manque de surprise avec le bloc FF. Donc au fait, à partir de FF12, ça deviendra Future Foundation numéro 12 en novembre.
Oui. Donc exactement comme on l'avait prévu.
Voilà. Donc toujours Hickman, hein, au scénario. Je cherche ton approbation, mais...
Oui, en fait, je fais oui de la tête, mais ça se voit pas, donc je suis
D'accord,
con.
c'est bon.
Non,
C'est
mais
pour ça. Excuse-moi, j'avais pas mis les lunettes.
il y a des moments, c'est vrai que j'oublie que c'est juste de l'audio. Donc forcément, si je fais oui de la tête, ça ne se voit pas. À moins que je couine quand je hoche la tête, et dans ce moment-là, tu pourrais le savoir, mais ce n'est pas le
À
cas. Je
moins
suis pas si vieux que ça encore.
que tu te fasses des bruits ou des... Comment dire? Je trouve même plus le nom, que tu te pètes les cervicales par exemple, et dans ce cas-là, j'entendrai que effectivement.
J'ai déjà extrêmement mal au cou en ce moment parce que j'ai un vieux torticolis, donc je vais éviter d'en rajouter, je pense.
D'accord, ben voilà, c'est pour ça. Ah ben en plus tu bouges quand même la tête. Bon, enfin.
Mais oui, non, mais j'ai appris à la bouger sans trop me faire mal, quoi.
Ah oui,
On
c'est vrai.
apprend par la force des choses, de toute façon.
Oui, non, à part par le headbang.
Ouais, c'est ça aussi.
Ouais. Donc, Future Foundation, bah continue. Alors, ça suivra forcément les personnages de cette Future Foundation essentiellement.
Donc les gamins, quoi.
Et oui, les gamins. Et qu'est-ce qu'il en est alors des Fantastic Four, des vrais Fantastic Four? Eh bien, Fantastic Four repart à partir du numéro 600, avec Jonathan Hickman et Steve Ditko au dessin, avec d'autres personnes d'ailleurs. Il y a Carmine Di Giandomenico, Lenny Francis Yu et Pharrell, alors Dalrymple. Je ne
D'accord.
le connais pas. Mais toujours est-il que bah, on va avoir deux titres fantastiques, alors que un seul déjà, je trouve qu'il est pas particulièrement transcendant en ce moment.
En ce moment, on s'emmerde dedans.
Et pourtant, il s'appelle
Jonathan
Fiction.
Hickman, oui, il a bien démarré, quoi. Il a bien démarré son run. Même le run FF a bien démarré. Et là, on s'ennuie, ça prend son temps. Et je pense qu'il délaye la soupe jusqu'à atteindre le numéro 600. Parce que l'histoire sur Black Bolt,
Oui, pourtant c'est le
franchement,
retour de Black Bolt, mais bizarrement.
absolument aucun effet, quoi.
Ouais. Et alors, la grande question aussi, c'est est-ce que Johnny Storm va vraiment revenir? Ou est-ce que c'est juste pour les couvertures teaser?
On a ce teaser dessiné par Joe Quesada d'ailleurs, qui est très beau.
Oui.
Comme quoi, quand il s'attelle à sa planche à dessin, il est capable
Enfin, le
encore de
dessin,
faire des
pas Joe
choses.
Quesada.
Oui,
Je sais pas,
oui,
peut-être que tu voulais faire une déclaration, hein, Joe Quesada.
Non, merci. C'est pas exactement mon style.
D'accord.
Voilà. Bref. Non, non, le teaser est vraiment beau. Et le problème, c'est que on a ce gros signe 4, on nous montre Johnny Storm. Alors franchement, si pour ce numéro 600, Johnny Storm ne revient pas avec ce teaser-là, ce serait de la pub mensongère.
La grande question, c'est quand même qui affronte-t-il, puisqu'on les voit foncer sur quelque chose.
Ah, moi, je sais pas s'ils font sur quelque chose. Je dirais qu'ils vont de l'avant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pour moi la symbolique de l'image, c'est vraiment voilà, ils sont de nouveau ensemble et ils vont de l'avant.
Bon,
C'était pas
ils vont vers la
forcément,
droite, ils vont vers la droite là, concrètement sur l'image.
tu vois, une façon de foncer sur un ennemi, quoi. En tout cas, ça me paraissait pas comme ça. Peut-être que d'autres le verront comme ça aussi, hein, je sais pas. Pour moi, ça m'a pas paru être une baston, quoi.
Par contre, sur l'autre couverture, donc la couverture, je crois, de base, Storm, Johnny Storm n'y est pas et c'est toujours Spider-Man. Alors peut-être que ça va être la passation de torche.
Ouais, ben, je sais pas, quel est l'intérêt de faire une couverture iconique avec un membre qui ne fait plus partie de l'équipe parce qu'il est mort? Enfin,
Mais
moi, ça me paraît débile.
oui. Ou bien alors peut-être que c'est Spider-Man, Peter Parker, qui s'enflamme.
Il a un costume ignifugé en dessous, peut-être.
Ben ouais, peut-être. Ou bien c'est maintenant qu'il travaille dans un limbo, peut-être qu'il peut recréer les pouvoirs de la torche. T'imagines la grosse déception.
Le
Oh!
rené enflammé. Il va shooter des toiles de feu ensuite.
Ben non, puis t'as aussi une couverture par John Romita Jr., si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. John Romita Jr. avec tous les cinq, au fait. T'as à la fois Spider-Man, Johnny Storm et les trois autres.
D'accord.
Donc, ça répond plus ou moins à notre question. Effectivement, il y a de fortes chances que Johnny revienne.
Bah, de toute
Oups,
façon,
2000.
rappelle-toi, c'est ce qu'on avait dit dès le départ, quoi. Quand on a su qu'il y en avait un qui allait mourir, quand on a su qui c'était, qu'on savait que le titre s'arrêtait pour repartir au numéro 1, on a tout de suite fait le rapprochement. 600, il est de retour, quoi. Pour le moment, on a l'air de ne pas s'être trompé.
Alors, au rayon teaser, puisque Marvel excelle dans le domaine, on a eu aussi des teasers pour les nouvelles séries Uncanny X-Men numéro 1, donc à sortir en novembre. En novembre, c'est là où tous les relaunchs ont lieu, j'ai l'impression.
Mais ouais, vu que septembre est squatté par DC.
Mais vu que, surtout novembre, c'est le LCF, rappelons-le, et que le LCF, c'est quand même l'événement, même aux États-Unis, et donc ils font tous les relaunchs Marvel pour le LCF. Et d'ailleurs, les auteurs vont venir nous parler du relaunch chez Marvel, chez DC. Donc venez
Il
nombreux.
y a des très bons auteurs qui viennent encore une fois cette année au LCF.
Oui, bah tiens, on peut en parler puisqu'on est dans les news, après tout, digressons.
L'invité d'honneur est bien sûr, vous le savez sûrement déjà depuis longtemps, Don Rosa.
Ouais, Don Rosa, la
Alors,
jeunesse de Picsou.
voilà, Monsieur Don
Celui
Rosa.
qui a insufflé au fait la continuité dans l'univers de Picsou. Ce qui peut paraître absurde dit comme ça, mais ça a son importance.
Ah oui, bah carrément même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une légende vivante.
Voilà.
On a aussi des gens comme Dan Abnett et Andy Lanning qui ont venir.
Oui, Dan Abnett, Andy Lanning, donc le Marvel cosmique depuis des années.
Oui, et puis Heroes for Hire, puis ils ont fait tellement de choses aussi, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont fait la Legion, ils ont fait du Wildstorm aussi,
Ouais,
en
ils ont fait
numéro 1.
le fameux truc avec les zombies, les Transformers, les Ghostbusters, je sais plus comment ça.
Ouais, ils chapeautaient l'événement, même si c'est pas eux qui ont tout écrit, toutes les parties, c'était Infestation.
Voilà, c'est ça. PlayStation. Bah, ils ont été très prolifiques ces dernières années, et puis surtout, ils nous ont offert
Et
beaucoup des meilleures histoires Marvel des derniers temps, hein.
ça fait très très longtemps hein, qu'ils sont en milieu parce que ça va faire. Ils écrivaient déjà Force Works à l'époque. À l'époque.
On
À
va pouvoir
l'époque,
leur
c'est.
demander s'ils sont contents du retour
De Century?
de Century.
Ouais, pourquoi pas. Non, non, mais enfin voilà, c'est quand même des gens impressionnants, quoi. Puis qui vont aller aussi travailler un petit peu chez DC, puisque c'est eux qui sont en charge de Resurrection Man,
Ouais,
qui
tout à
revient.
fait.
Parce que c'était eux qui avaient
Il
créé la
reste cité.
série à l'époque. Pardon, oui, donc je ne sais plus de quoi on parlait d'ailleurs.
Mais du LCF, du coup.
Du LCF, oui. Puis il y a encore plein plein d'autres auteurs. J'ai pas la liste sous les yeux, je ne me rappelle pas de tous les invités, mais il y a énormément de monde.
Ouais, de toute façon, on en reparle d'ici là, hein, j'imagine.
Oui, on va commencer à vous saouler avec tous ces invités, mais franchement, venez, venez très nombreux, ça va être super bon.
Puis bon, ça se passera. Ben, on peut dire où ça se passe, d'ailleurs, dans la salle du gymnase.
Oui, comme l'année dernière.
Comme l'année dernière, donc vous pouvez pas vous tromper en plus, c'est ça qui est formidable.
Et comme l'année d'avant, si je me souviens bien aussi.
Pas certain. Je crois. Je me demande si c'était pas à la halle au sucre. Bon, bah
C'était.
voilà. C'est
Ouais,
dit.
je ne sais
Je
plus.
sais
Je ne
plus.
sais plus si ça fait si c'était la première fois qu'ils étaient l'année dernière.
Je crois. Il me le semble. Faudra demander à Nono, qui est quand même l'expert de, comment dire, de toute l'historique du LCF et même de l'histoire de Lille, hein, disons-le carrément. Bien, on va peut-être
Si
retourner
vous
aux
avez
news.
une question sur l'île, adressez-vous à Nono.
Oui, bah voilà. ou sur les chapeaux, ou sur, enfin, je sais pas, il y a plein de domaines dans lesquels il excelle. Et que des domaines super intéressants. Voilà. Donc, allez, on...
Bon ben moi je dis big up Nono quoi. Voilà.
Même allez, pendant qu'on y est, Sam, Jean-Lô, toute la team.
Bien sûr.
Donc, on va peut-être y aller. On continue donc Uncanny X-Men numéro 1, le teaser avec Emma Frost de révélée comme membre de l'équipe. Et puis sinon les autres en ombre chinoise, j'ai envie de te dire, même si c'est pas ça en fait, c'est pas des ombres chinoises.
C'est des ombres tout court.
C'est des ombres tout court, ouais.
Les
Enfin,
teasers à la Marvel de genre, c'est ça.
c'est même de personnages effacés, on va dire, de la couverture, dont il ne reste que les silhouettes, voilà.
Cette
Donc
fois-ci, ils ne se sont pas fait avoir avec les bottes.
Ouais, Magneto, Serge, non, Magneto sera dans l'équipe et Juggernaut peut-être, je sais
Oui,
pas.
Juggernaut, ou serait-ce Colossus, puisqu'on avait vu cette image de Colossus enfilant le casque de Juggernaut.
Tu m'as fait très peur. Oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire, oui. Tiens, ça me fait
Ben.
penser que cette nuit, j'ai rêvé que je me faisais attaquer par Colossus, dis donc. Ça me revient là comme ça en tête.
Ah ben moi j'ai envie de te dire, allonge-toi sur le divan et je vais te psychanalyser.
Oui, parce que là, là c'est quand même. J'étais dans un espèce de couloir type vaisseau spatial. Et on me disait donc qu'il y avait Colossus dans une pièce. Attention, ça fait très bizarre. Et qu'il pétait un câble et fallait surtout pas s'approcher.
Bien, brandissait-il son poing façon FF?
Non, mais je le voyais pas, je pense, au final, Colossus. Bon, voilà, c'est dit. Et autre teaser, Wolverine and the X-Men, par Jason Aaron et Chris Bacalo, dont le teaser nous montre Wolverine, quelle surprise! C'est incroyable, on s'attendait pas du tout à voir Wolverine dans cette équipe.
J'ai du mal à m'en remettre de ton rêve,
Oui, mais
excuse-moi.
c'est pas grave, c'est pour ça que j'essaie d'enchaîner tant bien que mal. Et alors les autres membres de l'équipe, il y aura peut-être du Iceman, ou du Iceberg, ou je ne sais pas, parce qu'il y a un espèce de mec. Bah en fait, ce qui est complètement absurde, c'est qu'on nous avait montré déjà les membres de l'équipe quasiment. Donc il n'y a
Mais
plus qu'à compléter, quoi, en fait.
je sais plus. Mais comme en
Vous
fait
savez?
ça me passionne pas plus que ça, j'ai pas forcément retenu toutes
Comme
les
c'est
infos, quoi.
étrange, comme c'est étrange. Oui, vu qu'on nous a déjà montré la fin de Schisme avant le début.
Bah, ce qui me perturbe en fait dans ces teasers, c'est notamment la couverture d'Uncanny X-Men, parce que Emma Frost a cette place centrale, et non pas Cyclope, comme on nous l'avait laissé entendre.
Peut-être que Wolverine va être obligé d'exécuter Cyclope à la fin de Schisme, mais ce sera le grand moment où les fans se feront Oh là là!
Ben
Alors
voilà,
qu'on s'y attend, quoi, quand même. Enfin, c'est une possibilité.
qu'adviendra-t-il de Cyclope, quoi? C'est ça le principe, la principale question qui me vient. Deux possibilités, soit il crève, j'espère comme une merde du coup, ça lui fera du bien.
Oui,
Sur nous
soit.
avoir fait chier tant d'années. Ou alors il s'exile. Marre de ces petits conflits entre mutants, dont il est quand même souvent responsable, hein, entre
Ou alors
guillemets.
il devient le nouveau Magneto.
Ah,
Oui, ça me
ça me
paraît
paraît
probable.
facile,
C'est ce que
quoi.
j'espère secrètement.
Ouais, mais ça me paraît facile. Ça a tellement été teasé, etc. que.
Oui, mais si c'est bien écrit, ça peut être bon.
Est-ce que Schisme est bien écrit?
Ben non, justement.
Voilà.
Mais bon.
Donc, espérons pas.
J'espère toujours qu'il y a un regain de qualité, d'intérêt, mais bon. Bref.
Bah espérons, espérons.
Alors, encore pour novembre. D'autres news de novembre, trois mini-séries d'annoncées pour novembre. Alors, va y avoir. Ah oui, tiens, en fait, une autre news, tiens, que j'avais oublié. Gros spoiler par contre quand même. Donc, on a vu un teaser. Au fait, Thor laisserait sa place à un certain Tanarus, que je ne connais pas, à partir de The Mighty Thor numéro 8. Et au fait, Marvel tease le fait que peut-être Thor ne va pas s'en sortir avec Fear Itself. Alors donc là, franchement, ça enfonce le clou, déjà que c'est mauvais. S'il nous tue Thor encore une fois.
Sachant que le personnage a une certaine exposition médiatique avec le film, ce serait quand même jouer un jeu dangereux.
Ouais. Ou être complètement tombé sur la tête, mais Marvel en ce moment, avec Fear Itself, nous le prouve, de jour en jour, j'ai envie de dire. Enfin bon. Voilà, c'est. Bon, pas plus
On
convaincant.
verra, hein. Tu sais, c'est peut-être un remplaçant parce qu'il est occupé ailleurs.
Et il y aura une mini-série, donc il y aura trois mini-séries d'annoncées pour novembre. La première, en quatre parties, de Rob Roddy et de Stephen Segovia, sera justement sur l'univers de Thor et s'appellera Thor The Deviants Saga, sur les déviants.
D'accord.
Enfin, moi, ça m'intéresse absolument pas, cette mini-série, je dois te dire.
Non, moi non plus.
Par contre, celle qui vient m'intéresse beaucoup plus. Victor Von Doom, qui va raconter, au fait, le combat de Doom pour récupérer l'âme de sa mère, perdue en enfer. Et si je te dis que ça m'intéresse beaucoup plus, c'est pas seulement le pitch qui est un peu plus intéressant déjà, c'est le scénariste Nick Spencer, je vais y arriver, qui va s'occuper de cette mini-série avec Becky Cloonan au dessin. Alors, je ne la connais pas, mais
Becky
par
Cloonan,
contre.
on entend de plus en plus parler d'elle.
Ah bon? Tiens, moi c'est la première fois. Ok.
Je ne pourrais plus te dire dans quelle news je l'ai entendu, mais son nom revient fréquemment ces derniers temps.
D'accord. Ou bien peut-être que tu as entendu parler déjà 10 fois de cette mini-série.
Non, pas du tout.
Très bien. Voilà. Donc Nick Spencer, donc intéressant, enfin plus intéressant en tout cas pour moi, que la précédente et dernière mini. Magneto, une mini-série sur Magneto, justement, on y revient. En 4 épisodes, toujours, qui commence également en novembre. Magneto, not a hero, sans blague. Par Scotty Young et Clayman. Et selon le teaser, ça nous fait penser que peut-être Magneto sombrerait encore du côté obscur. Bon, ça me paraît
Ce qui est
bizarre.
ridicule, sachant qu'il fait partie de l'équipe de Wolverine.
Ben ouais. Ou bien alors, c'est pas Magneto, c'est Cyclope. Bon, je crois pas.
Ouais.
Je crois pas non plus. Non, mais je crois pas, parce que il a la tête de Magneto, quoi. Ou bien alors, ça se passe dans le passé.
Ouais, sûrement. Bon, Scotty Young, faut voir.
Voilà.
Je suis pas non plus hardcore fan, quoi.
Donc voilà, on vient de passer des heures à parler de Marvel. Finalement.
Ouais. Et puis on va y rester d'ailleurs avec la première double review, enfin la première, la double review de la
La double
semaine.
review de la semaine.
On a fait un très très long passage news, donc on va faire un petit peu plus rapide sur les reviews.
Ouais.
Dans ce marrant, comme t'es l'actualité, comme toujours.
Puis en même temps, peut-être que les reviews, on n'aura pas grand-chose à en dire. Bah vas-y, enchaîne.
Ouais, donc bah, la review de la semaine, la double review, vous vous en doutez, avec la sortie du début de Spider Island, c'est le Amazing Spider-Man numéro 667, écrit par Dan Slott, Humberto Ramos au dessin et Carlos Cuevas à l'ancrage. Donc j'imagine que tu as fortement aimé les dessins, comme d'habitude.
Alors, j'ai pas tant détesté que ça.
Ah ouais? Oh putain, ça va? C'est
Ouais, j'ai pas tant détesté les dessins que ça. En fait, c'est pas les dessins que j'ai pas aimé. Voilà.
On y est, on y est.
Voilà.
Bon, on va essayer de faire le pitch très rapidement.
Ah bah, il est simple, hein. Ah bah,
Carlos.
j'ai envie de le faire. Oh,
Non, mais
s'il te
écoute,
plaît.
je t'en prie, vas-y,
Voilà,
fais-toi
non mais
plaisir, ça marche.
c'est pas un caprice, c'est juste que c'est pour pousser une gueulante. Marvel nous a tellement teasé l'event que là concrètement il ne se passe rien qu'on ne sache déjà pas. C'est-à-dire que bah, des gens, des New-Yorkais ont des pouvoirs d'araignée, des pouvoirs de Spider-Man. Forcément ça fait désordre, donc J. Jonah Jameson décide de boucler l'île de Manhattan.
Ah bah lui il est heureux quoi, il est heureux comme une puce. Il
Oh,
saute
il est inquiet
partout.
aussi quand même.
Ah non, il est content. Je vous l'avais dit,
Oui.
Spider-Man c'est une menace. Regardez, maintenant il y en a plein.
Oui. Enfin bon, d'ailleurs c'est un peu con parce que comment savoir si ça vient de Spider-Man?
Non mais enfin voilà,
Ouais.
ça me fait rigoler. Il est là en train de dire, voyez tous les impôts que j'ai faits pour cette fameuse brigade anti-Spider-Man. Et bien
Ouais.
maintenant ça se révèle justifié. Et
Ouais,
il est tout
mais
heureux.
justement, donc la brigade, y en a plus en action. Elle est plus en place. Et du coup, bah, beaucoup de super-héros Marvel font leur apparition pour essayer de ramener de l'ordre. Grosso modo, c'est ça, hein, ce premier numéro.
Et
Donc vraiment.
bien sûr, tous ces brigands enfin, habillés façon Spider-Man sont vraiment habillés dans les costumes de Spider-Man. On voit passer tous les costumes de Spider-Man de
Ouais,
l'histoire, quand même.
ouais, ouais,
Ça,
ouais, ouais.
c'est assez drôle. On voit des mecs habillés en costume
Oui.
classique, d'autres en costume FF, d'autres en costume de de Scarlet Spider même.
Ouais, mais on voyait déjà ça sur les teasers et sur les pages preview, donc bon,
Oui,
vraiment
bien
aucune
sûr.
surprise dans ce numéro. Et puis peut-être même, je dirais, des mauvaises surprises.
Comme.
Bah comme j'ai l'impression que Slott est en train d'utiliser un personnage qu'on va pas nommer, mais alors d'une manière totalement inutile, quoi. Il en fait un espèce de gros monstre. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Ça pue.
Ouais, bah, tu sais, j'avais même pas fait gaffe qu'il était vraiment dedans. Tu vois, à ce point-là.
Ben, si, ouais, enfin, c'est. Voilà.
L'épisode, moi, j'ai bien aimé le. Enfin, même si c'est une scène facile et on s'en doute, elle est quand même relativement prévisible, elle est plutôt pas mal écrite, la façon dont Carly annonce à Peter qu'elle a des pouvoirs.
Ouais, mais alors ça, ces pages-là, justement, qui étaient peut-être les plus intéressantes du comics, avaient été publiées dans un free comic book il y a un mois, je crois.
Oui, dans le. Ben, c'était pas les pages qu'il y avait dans le
Spider
Daily
Island.
Bugle, je sais pas quoi là,
Oui,
Spider-Island
c'est
Daily
ça.
Bugle?
Ouais, tout à
Ouais.
fait. Donc encore une fois, quel dommage, parce que.
Et puis bon, il y a quand même aussi cette présence de Shang-Chi et Madame Web.
Ouais, qui servent pas à grand-chose. Alors, en plus, j'ai envie de te dire, mais quand est-ce que ça se passe, Spider Island? On voit Ben Grimm, on voit plein de gens, mais. Et Fear Itself?
Et oui, comme d'habitude.
Eh oui.
Comme d'habitude. Chacun fait son petit event dans son coin sans penser aux choses qui se passent ailleurs. Ça, c'est un petit peu décevant. Bon, le truc, c'est que bah, Spider-Man s'en prend plein la tête, puisque bah, comment prouver qu'on est le vrai Spider-Man quand on a des gens habillés en Spider-Man de toute époque, partout ailleurs?
Ouais. Oui,
Voilà.
oui, oui. Oh, oui, bon, enfin bon, c'est un peu ridicule. De toute façon, est-ce qu'il avait pas. Mais si, il avait révélé son identité à ses potes Avengers.
Mais oui, mais personne ne veut le croire. De toute façon, ils ne l'écoutent pas. Parce que moi
Ah
aussi,
non,
je me
mais
suis dit, bon,
s'il monte sa
il a
tête.
qu'à dire à Ben Grimm, allez, c'est moi, c'est Peter.
Non, mais de toute façon, il doit avoir des moyens.
De
Il doit
toute façon,
savoir des choses que seul
déjà,
lui sait.
le truc, mais simple quoi. Je veux dire, un costume en molécules instables, puisque c'est ce qu'il a. C'est Reed Richards qui m'a filé. Je veux dire, il a qu'à, quand il se pointe, avoir un costume qui change, montrer qu'il peut changer son costume, ah, c'est pas n'importe quel brigand qui va se retrouver avec un costume de molécules instables, ça me paraît logique, quoi.
Oui, et puis même, il peut dire des choses. Il peut dire, tiens, ce matin, on a mangé ça au petit-déj. Comment veux-tu que les autres le sachent?
La veille au soir, il était en train de faire une partie de poker avec eux, puisque c'était le soir même qu'il devait rencontrer Karen Cooper.
Si aux autres, voilà, il y avait telle personne, telle personne, telle personne. Je veux dire, bon, voilà. Non, mais c'est un petit peu ridicule.
Bon, en même
ça
temps,
fait penser.
Pour sa défense, Ben Grimm ne lui laisse pas vraiment le temps de parler. Il
ouais, non, mais moi, ça me fait penser vraiment à une écriture de l'ancien temps, quoi. J'ai l'impression que Slott essaye de faire un truc comme dans les années 60, 70, où il y avait toujours ces quiproquos, ces malentendus entre super-héros, pour des conneries, quoi. Non, enfin, je veux dire, moi, ce numéro-là m'a plus déçu encore que celui de la semaine dernière, de il y a 2 semaines, d'ailleurs. Et donc, voilà.
Mais je sais pas, moi, je dois bien adhérer à l'écriture de Dan Slott, parce que je trouve que ça commence pas mal. Il y a de l'action, il nous avait promis que ce serait un truc bourré d'action. Les premières pages sont un peu lentes, mais après, ça n'arrête pas. Il y a de l'humour façon Dan Slott, hein, bien sûr. Donc, c'est pas non plus du grand rire, c'est juste un petit sourire en coin, une petite référence qui fait à peu près sourire. Mais c'est déjà plus qu'on le dit des fois ailleurs. Donc, moi, j'accroche à son écriture en général. Je prends Spider-Man pour ce que c'est. On est parti de tellement bas qu'après tout, c'est tellement mieux que ce de quoi on est parti.
Oui.
Donc, voilà, ça me plaît. Maintenant, c'est vrai que en tout cas, le début du crossover, ils ont tellement teasé dessus, comme tu le disais, que voilà, on sait à peu près tout ce qui se passe pour le moment. Reste à voir si ça va continuer dans cette veine-là. Si ça continue dans cette veine-là, bon, je pense qu'on risque de se faire un peu chier, mais je pense qu'il va passer à la vitesse supérieure et que ça va partir dans tous les sens. De toute façon, ils nous ont promis quelque chose où ça va être de l'action non-stop.
Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, j'attends que ça commence véritablement, c'est-à-dire qu'il y ait des choses que je ne sais pas, quoi. Il y a des surprises, des choses que j'ai pas déjà vues dans les teasers, pour vraiment rentrer dedans, quoi. Donc, pour le moment, moi, en tout cas, dans l'état actuel des choses, cette première partie, ce sera un pass.
Ah ouais, carrément.
Oh ouais, ouais. Ouais, moi, j'attends que ça démarre. Vraiment.
D'accord. Bah, moi, je trouve que c'est un bail.
D'accord.
Tu vois? Bon, un petit bail, par contre, hein. C'est pas l'ultra bail de la semaine.
Bon, moi, ce sera bye-bye, quoi.
Mais voilà, bon. Moi, ça m'a séduit, ça m'a fait marrer. J'ai passé un bon moment en le lisant. Même si, il y a des passages un peu plus creux. Ça se tient bien, quoi. Comparé à d'autres trucs que j'ai lus cette semaine, en tout cas, ça
Ah oui,
sert.
peut-être, oui, d'accord, mais bon. Bon, moi, non, moi, j'ai été déçu, pas de surprise, voilà. J'attends vraiment qu'il se passe un truc où je me dise, ah bah oui, d'accord, effectivement, c'est surprenant, voilà. La scène finale du numéro précédent me laissait penser qu'il allait avoir quelques petites surprises, et puis là, bah, non.
D'accord.
Franchement déçu. Donc, du coup, passe.
Ah oui, je comprends.
Bon, ben on va enchaîner. Alors oui, je commence avec le Détective Comics numéro... Eh ben attends, merde.
881.
881, oui. Qui est à 3,99$ d'ailleurs.
Ah, il est plus gros peut-être.
Il est un peu plus gros.
Ouais, c'est
un peu plus, un peu plus long.
De toute façon,
oui.
C'est 2,99$ pour les numéros de 20 pages. Dès que ça dépasse 20 pages, on change de prix.
J'ai pas compté, parce qu'avec les pages de pub et tout, c'est chiant. Mais voilà, je crois, oui. Toujours est-il que c'est la dernière partie de l'arc par Scott Snyder.
Puis c'est surtout le dernier numéro de Detective Comics.
Oui. Oui.
Quand même.
Oui, c'est vrai, oui.
Quoi.
Oui. Enfin, c'est le dernier, non. Avant le premier. Enfin, tu vois.
C'est le dernier du volume 1, disons.
Voilà, c'est ça.
Il n'avait jamais été relaunché, quand même.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est un numéro historique, en soi. Alors, est-ce que, justement, ce numéro vaut le coup? Scott Snyder, Jock, Francesco, Frank Cavilla, sur les dessins.
Cette série était quand même plus ancienne que Action Comics. Malgré qu'elle ait moins de numéros, faut penser qu'Action Comics est pendant un temps passé en weekly.
Aussi,
il
n'y
avait plus Superman dedans, d'où le fait qu'ils aient dépassé en termes de numéros. Mais c'était quand même la plus vieille série encore en activité, en comics mainstream.
Alors, ce numéro, c'est vraiment, enfin la star vraiment de cet arc finalement et de ce numéro, c'est le fameux fils Gordon, qui s'appelle aussi James Gordon en fait.
James Gordon Jr.
Voilà, James Gordon Jr. qui est complètement taré. Bon, là c'est clair et net, on s'en doute, hein. Voilà. Et au fait, pour résumer vite fait, hein, parce qu'il faut quand même partir de là, dans le dernier numéro, ça commençait sur les chapeaux de roue. La femme du commissaire Gordon était, attaquée par le Joker, ou en tout cas, ça semblait être le Joker, puisqu'elle avait ce fameux grand sourire sur le visage. Enfin, voilà. C'était assez choquant comme démarrage. Et au fait, durant tout le dernier numéro, il cherchait le Joker, et au moment où Dick trouve enfin le Joker, il comprend que c'était pas le Joker qui avait attaqué la femme de Gordon, c'était son propre fils, qui est donc complètement taré. Et là, au fait, il détient Barbara Gordon, et il s'apprête à la tuer, quoi, tout simplement. Et donc il y a une espèce de face à face et de grande discussion entre Barbara Gordon et son frère. Et c'est super bien écrit, c'est vraiment super flippant parce que on se rend compte à quel point le mec est taré. La grande question, c'est est-ce que Dick va arriver à temps pour sauver Barbara? Est-ce que Dick arrivera à temps pour sauver Barbara? Ça fait vachement faux sop à la con, mais non, c'est vachement bien, un suspense incroyable. Et surtout, une ambiance, une écriture super glauque. Non, franchement, c'est du très très bon. C'est du très très bon. C'est même pas, en fait, on n'a même pas l'impression forcément de lire du Batman. C'est vraiment un thriller, quoi. On se demande si ça va bien se terminer ou pas. Et jusqu'à la dernière page, on est assez, on est scotché, quoi. Donc très très bonne lecture. Très très bonne surprise.
Je l'ai pas encore lu, moi. J'attendais justement de faire la review et je lirai tout à l'heure, mais de toute façon l'arc était très très bon depuis le départ.
T'as lu l'avant-dernier aussi?
J'ai l'avant-dernier et celui-ci à lire.
Ah merde, je t'ai spoilé un petit peu alors.
C'est pas grave, de toute façon ça fait plus d'un mois, c'est moi qui ai pas eu le temps de lire.
Non,
ça fait pas plus d'un mois exactement, mais de toute façon voilà, ça fait un moment qu'il est sorti, j'avais qu'à le lire avant, c'est tout. C'est pas grave.
En tout cas, c'est vraiment du très bon. Scott Snyder sur Batman, très bonne surprise. Bon,
un peu plus peur pour la suite, puisque je pense que les dessins font aussi partie de cette ambiance. Et là, il va être en tandem avec
Capullo,
qui n'a pas du tout ce style aussi sombre. C'est très beau, hein, c'est pas le problème. C'est juste qu'il n'a pas ce style aussi torturé et aussi sombre.
C'est aussi, au fait, le truc, c'est que le grand changement, c'est qu'on va revenir vraiment à du Batman, parce que là, j'ai envie de te dire, c'était plus un titre autour du commissaire Gordon que de Batman. D'ailleurs, c'était pas vraiment Batman, c'était Dick Grayson, en plus.
Ça portait son nom de détective comics.
Tout à fait.
Ses ambiances noires, etc.
Le commissaire Gordon avait déjà eu le grand rôle dans d'anciens numéros de détective comics dans les années 90.
Oui, puis il a eu des séries aussi à lui. Des mini-séries.
Et puis alors, ce nouveau méchant du coup, hein, James Gordon Jr., très très bon.
Espérons que ce sera quelqu'un qui va rester.
Ah ben non, je te dis pas s'il s'en sort ou pas, lui aussi.
On verra. Mais ce serait dommage de voir un personnage qui a été mis en place d'aussi belle façon disparaître aussi soudainement. Ah, on verra, hein, je lirai ça tout à l'heure et j'aurai de la surprise. Donc c'est un bail.
Oui, tout à fait. Là oui, définitivement. Mais tout l'arc, d'ailleurs, hein, ne ratez pas le run de Scott Snyder sur Detective Comics.
On va passer à la suite, on va rester dans l'univers de Batman, le Red Robin numéro 26. C'est la fin de la série aussi, avant le relaunch, et avant son nouveau costume ignoble, avec des ailes. Je sais pas si t'as vu le costume.
Oui, je pensais que tu parlais de celui-là, oui, tout à fait.
Donc c'est écrit par Fabian Nicieza, dessiné par Marcus Toe et ancré par Ray McCarthy. Dans cet épisode, c'est une sorte de boucle qui... Voilà, on retourne à un certain point de départ, et Tim va essayer de se venger de Captain Boomerang, qui avait tué son père dans Identity Crisis.
Tout à fait, ça,
qui est revenu à la vie après Blackest Night.
D'accord, oui, donc il va essayer de retuer le mort, quoi.
Oui, voilà, ça le fait chier que Captain Boomerang soit en vie, que son crime reste impuni, alors qu'il a quand même tué son père.
Mais ça fait un moment qu'il est revenu.
Ben oui, depuis le début de Brightest Day, mais Tim n'avait pas forcément eu le temps de s'y atteler, et donc là, il va mettre un plan en place, un truc, mais vraiment taré, avec des milliers de variables possibles, mais Captain Boomerang va tomber dans le panneau à chaque fois, et ça nous montre à quel point Tim a réussi à bien analyser la personnalité humaine. Il a tout ce qu'il faut pour être un très très grand Batman.
Mais alors cependant, il va tomber dans le panneau, mais il va pas disparaître à chaque fois.
Disons qu'à chaque fois, à chaque étape de ce plan que Tim a mis en place pour faire tomber Captain Boomerang, il lui a laissé des milliers de possibilités de s'en sortir.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Il y avait une possibilité où, à chaque fois, il allait s'enfoncer un peu plus. Et bien sûr, Captain Boomerang choisissait celle-ci à chaque fois. Tim s'en doutait, bien sûr, mais il avait prévu le coup. Et son plan est rudement bien pensé, c'est impressionnant. Tim est devenu vraiment un génie, quoi.
D'accord. Et par contre, alors, il s'attaque au mec qui revient toujours.
Est-ce qu'il va finir par se venger et tuera-t-il Captain Boomerang, Ou est-ce qu'il l'empêchera de mourir? Le sauvera-t-il à la fin? Et puis quelles seront les conséquences? Je vous laisse découvrir ça parce que c'est vraiment sympa.
Mais j'espère que ces 6 conséquences, il y a, elles seront pas totalement effacées lors du relaunch.
Mais peut-être, peut-être pas. C'est aussi le problème.
Peut-être, peut-être pas. Tu m'as fait un joli petit, peut-être.
Non, mais c'est le gros problème de ce reload, c'est qu'on ne sait pas quels sont les éléments qui vont être gardés. On a beau nous dire que y a 4, enfin peut-être pas 90%, mais que une très grosse partie des événements actuels, enfin on relance pas tout à zéro, on n'efface pas tout le passé, et donc une grosse partie des événements vont être gardés. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va changer ou qui ne va pas changer. Et c'est un gros problème.
Est-ce que les lecteurs surtout vont changer? C'est la grande question.
Ça aussi.
T'as la main.
Donc moi franchement j'ai trouvé cet épisode vraiment sympa. Très bon épisode de fin de série aussi. Donc, ça sera, disons, un check-it à tendance buy. Voilà. Très sympa. Donc, même si vous n'avez pas forcément lu la série Red Robin, si vous aimez simplement le personnage de Robin, si vous aviez suivi Identity Crisis à l'époque et que vous voulez voir la revanche de Robin, enfin, du Robin de l'époque, sur Captain Boomerang, procurez-vous ce numéro. C'est quand même très sympa.
D'accord. Eh bien, je vais repartir chez Marvel et repartir sur le Punisher, puisque la semaine dernière nous avions parlé du Punisher numéro 1.
De
Enfin,
Greg
j'avais
Rucka, ouais.
parlé du Punisher numéro 1, oui, de Greg Rucka. Et bah là, c'est le Punisher Max numéro 16, toujours par Jason Aaron et Steve Dillon au dessin.
C'est vrai qu'il a subi un gros hiatus, quoi.
Ah oui, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie?
Je crois qu'il y a eu un gros hiatus entre le numéro 14 et le numéro 15, genre 8 à 10 mois, un truc dans le genre. C'est impressionnant.
Ah ouais, d'accord, carrément. Oui, parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup, effectivement, depuis le début, puisque les premiers qu'on a eu en français, donc récemment, que nous avons traités dans un Comics City, étaient sortis déjà il y a un petit bout de temps.
Ah oui, ça s'est sorti en 2009, je crois.
Ouais. Donc effectivement, oui, le compte n'est pas juste. 16 numéros, simplement. Effectivement, il y a dû y avoir un creux. Alors, où en est-on? Eh bien, la guerre entre le Kingpin et le Punisher continue. Mais elle s'est mal finie pour le Punisher puisqu'il est passé par la case prison. Donc un petit peu à la manière d'un Daredevil, il se retrouve en prison avec bon nombre de gens qui lui en veulent, forcément, ou
Bien
qui
sûr.
veulent essayer de l'exterminer, puisque le Punisher est quand même un petit peu dangereux pour leurs affaires, donc là c'est le moment de se débarrasser de lui.
Ah, puis il y a une réputation à se faire, celui qui désingra le Punisher,
Ouais,
voilà.
ben voilà, ce sera une légende vivante. Et donc justement, en parlant de légende vivante, il y a un mec dans la prison qui s'appelle Big Jesus. Voilà. Qui a aussi une tête pas mal, quoi. Voilà, une tête. Il s'appelait Big Jesus. Et ce Big Jesus, eh bien, semble-t-il, veut se faire justement ce nom-là en désinguant le Punisher. Et on va s'apercevoir, alors bon, petit spoil sur ce numéro, mais si je le dis pas, je peux pas dire grand-chose. On va s'apercevoir qu'en fait, ces raisons d'attaquer le Punisher en prison ne sont pas celles que l'on croit. En fait, c'est peut-être pas pour le désinguer, finalement. Voilà. Je vais pas t'en dire
D'accord.
plus.
Non, c'est intriguant en tout cas.
Beaucoup de choses dans ce numéro. D'autres choses aussi, parce qu'en fait, on réassiste au fameux passé du Punisher et aux derniers instants qu'il a passé avec sa femme, avant qu'elle soit tuée.
D'accord.
Et c'est aussi un numéro dans lequel Voilà, il revient sur son passé, une espèce d'introspection. On voit également la première personne qu'il a tuée, une fois que sa famille a été exécutée. Une scène assez gore d'ailleurs, toujours. Ben, enfin bon, c'est du Dillon, hein, c'est du Jason Aaron, donc c'est
On ne peut pas
toujours haut en
s'attendre à autre
couleur.
chose.
Il y a beaucoup de rouge.
Ouais.
Et c'est vraiment pas mal. Honnêtement, moi je suis toujours très très fan de l'écriture de Jason Aaron sur le Punisher Max et de cette version du Punisher qui est vachement hardcore. Je sais que t'es pas super fan, mais moi j'aime beaucoup.
Ben moi j'avais bien aimé
Ah oui, c'est vrai, oui, t'as bien aimé
le
le. Oui.
début de Punisher Max. J'ai pas lu les arcs en cours là. Mais moi ça m'avait intéressé en tout cas.
On voit aussi le Nick Fury dans sa version Max, qui vient rendre visite à Frank Castle au fait à l'époque. Du décès de sa famille. Et
D'accord.
non, enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Un numéro très plaisant. Voilà. Donc un bail pour moi. Mais encore une fois, réservé à un public averti.
Façon, tout ce qui est dans la collection Max est à réserver à un public averti, quoi qu'il arrive. Ok, on passe à la suite, on perd pas trop de temps. War of the Green Lantern Aftermath numéro 2. Tony Bedard au scénario. Alors cette fois-ci au dessin, on a Ransom Getty et Andy Smith. Et en encreur, je vais pas les citer parce qu'il y en a 8. Impressionnant, 8 encreurs pour un épisode. Alors, à la fin du premier numéro, on avait des Green Lanterns qui décidaient d'aller se charger eux-mêmes de Sinestro puisque les gardiens avaient l'air de l'accepter. Et donc, ils allaient recruter Sora Nicknatou, la copine de Kyle Rayner.
Ouais.
Kyle va s'interposer et ça va se régler, en fait, le conflit va se régler entre Kyle et Natou, qui vont en même temps profiter de cette baston pour faire une espèce de thérapie de couple. Et
ah ouais.
On peut dire que c'est que ça ne se passe pas très très bien entre eux. Il y a vraiment de l'eau dans le gaz et je ne sais pas si ce couple va durer très très longtemps.
Mais surtout, la grande question, c'est que là, il y avait l'air d'avoir une espèce de montée de bouclier de la plupart des Green Lanterns.
Face aux gardiens, oui, exactement.
Face aux gardiens, est-ce que ça évolue
Eh ben oui, un petit peu quand même. On voit ce que les gardiens étaient en train de faire à Sinestro dans leur pièce secrète. La porte est détruite pendant le combat entre Natou et Kyle.
Ouais.
Je ne dirai pas ce qu'ils étaient en train de faire, justement, je vous laisse la surprise. Les gardiens n'ont pas perdu toute leur tête quand même.
Ouais, d'accord.
Ils poussent un petit coup de gueule sur tous les Green Lanternes en général. On verra ce que ça va donner. Bon, on assiste aussi aux funérailles de Mogo,
ah oui.
Au passage. Mmh. Une scène qui est pas trop mal écrite, assez sympa, même si un petit peu surjouée, on va dire.
Mais alors du coup, j'ai l'impression qu'ils... La promesse du premier épisode était quand même assez importante, et j'ai l'impression qu'il se passe pas tant de choses que ça, finalement.
Mais il se passe quelques trucs aussi. On a notamment les gardiens qui vont donner une nouvelle affectation à Kyle.
Et au fait, Al Jordan, on le voit ou pas?
Non, du tout.
Ce qui est quand même problématique, puisque c'était la grande question de cet aftermath aussi.
Puis on va avoir aussi quelques informations sur le sort de Gantet.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc il y a beaucoup de pistes qui sont lancées pour la suite, en tout cas. Il faudra voir les évolutions, mais c'est vraiment un numéro intéressant pour la suite. Disons qu'il y a plein de questions qui sont sans réponse à la fin et qui posent des bases pour ce relaunch. Et ça a l'air vraiment sympathique. Maintenant, bon, disons quand on voit le premier épisode, quand on voit le deuxième, c'est vrai que finalement, cet aftermath règle pas tout non plus.
D'accord.
Un petit peu le problème. En tout cas, ça reste quand même un bail. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent, et puis toutes ces questions qui nous restent à la fin de cet épisode, et qui nous donnent envie d'aller voir au moins les premiers épisodes du relaunch, je pense que voilà, le pari est réussi de ce côté-là.
De toute façon, je pense qu'ils vont pas prendre de risques, ils vont garder vraiment Green Lantern quasiment tel qu'il est actuellement, voilà, poursuivre vraiment cette série comme si de rien n'était.
Ah, je sais pas. Par rapport à ce qui s'est passé, tu veux dire, il y aura pas de...
Ouais, il y aura pas de gros changements comme pour Justice League ou pour Superman, par exemple. Alors
D'ailleurs, je viens de penser à un truc quand tu parles de Justice League. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant, mais puisque, apparemment... Donc, attention, spoil pour ceux qui n'ont pas lu la fin de War of the Green Lantern. Vu qu'Hal n'a plus son anneau et qu'il n'est plus Green Lantern, faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il peut foutre dans la Justice League.
Oui, mais alors... Déjà, le premier arc se situe dans le passé.
Ouais.
Donc, il est, on le voit toujours, forcément. Par contre, après, qu'en est-il? Est-ce qu'il va revenir dans la Ligue? Est-ce qu'il va récupérer son anneau? Et juste être le Green Lantern de la Ligue, alors que Sinestro est le Green Lantern... le Green Lantern, quoi, de la série Green Lantern. Bon, à voir.
Ouais, il y a beaucoup de questions qui nous restent. Hein. On verra ça d'ici fin août. Bon.
Sachant que sur la fameuse couverture de Jim Lee, au début, Al Jordan n'avait pas son anneau. Et apparemment, il l'a récupéré.
Oui, enfin, en même temps, il faut m'expliquer comment il peut être Green Lantern s'il n'a pas d'anneau.
Ben oui, oui, oui. Mais c'était une erreur. Bon, je ne sais pas. Bref.
Oh. Oui, bref, on va passer maintenant. Donc, j'ai dit que c'était un bail, je ne me rappelais plus. Bon, de toute façon, je le redis, c'est un bail.
D'accord. Voilà.
On va faire quelques petites reviews express avant de conclure. Je te laisse commencer, Benny.
Oui, le Batman and Robin 26 par David Hein au scénario et Greg Tokini au dessin. Alors, Greg Tokini, je suis vraiment pas fan du style graphique. David Hein, ça dépend. Là, en l'occurrence, Batman et Robin, donc Dick et Damian, sont de retour à Paris. David Hein, Paris, tout ça, une grande histoire d'amour.
C'était le jardin, je sais plus quoi, là, l'espèce d'Arkham façon
Paris. Le jardin noir, je crois, d'ailleurs. Oui, le jardin noir, voilà. C'est d'ailleurs, ils disent « A breakout from le jardin noir voilà. ». Et ce qui est assez marrant, donc, c'est qu'effectivement, grosso modo, hein, c'est très simple, des super vilains français donc se sont échappés du Jardin Noir qui est l'homologue de d'Arkham. Et du coup c'est le bordel dans Paris. Et Nightrunner vient leur prêter main forte.
C'est encore la guerre civile, non?
C'est pas encore la guerre civile, mais presque, parce qu'au fait les gens deviennent complètement tarés, donc c'est la guerre civile. Mais là ils nous rejouent la scène d'Inception où les rues se retournent dans tous les sens. Mais bon bref, en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario est un one-shot, donc ça fait plaisir parce qu'on a une histoire complète. sur 22 pages.
Surtout pour vu que c'est la fin de la série.
Voilà, oui, c'est vrai que ça valait mieux. L'histoire est assez sympathique. Moi, franchement, elle m'a surprise. Les vilains méchants français, voilà, j'arriverai plus à parler, sont sympathiques aussi. Voilà, le final est assez surprenant. En tout cas, moi, il m'a surpris. Bon, c'est assez violent, c'est assez sombre, c'est assez rentre dedans.
Bah, c'est du
Donc,
David Hein.
oui, voilà, c'est vraiment une lecture adulte, on va dire. Y a une scène qui m'a rappelé Robocop 2. Je sais pas si tu
D'accord.
l'avais vu.
Oui, bien
Mais
sûr.
voilà, Robocop 2, une scène avec au moment où il retire le cerveau du mec, pour le foutre dans ça. Enfin voilà, il y a un truc qui m'a rappelé ça. Bah voilà, donc vraiment épisode plaisant, bonne surprise. Donc pour moi c'est un bail. Voilà, achetez-le. En plus ça vous fait une histoire de Batman en one shot, c'est assez rare pour être signalé d'ailleurs. Donc allez-y. Même si les dessins, effectivement, c'est vraiment pas ma came, Greg Tokini.
D'accord. Ben moi alors, Spider Island Cloak and Dagger numéro 1 sur 3, parce que c'est une mini en 3, scénarisé par Nick Spencer au dessin et Marios. Donc on retrouve Cloak and Dagger en plein New York qui se font jeter de l'église dans laquelle ils squattaient en fait. Et puis ben, les Avengers viennent les chercher pour aller se battre contre tous ces Spider-Men. Et puis on a l'arrivée de Mister Négative, aussi dans le tableau, et une prédiction d'une espèce de vieille femme que va voir Mister Négative, qui est capable de lui dire le futur. Bon, attention, je spoil légèrement la fin, mais honnêtement, l'épisode pour moi, je trouve, n'a pas beaucoup beaucoup d'intérêt, sans cette fin-là en tout cas. C'est que Cloak serait peut-être amené à tuer Mister Négative. En tout cas, d'après les prédictions de la femme, c'est celle qui le tuera.
D'accord. Non, je pensais que t'allais me dire Cloak serait amené à tuer Dagger. Je me suis dit, oula. Mais non, d'accord,
Non,
ok.
mais d'ailleurs, je dis une connerie, c'est pas Cloak, c'est Dagger, justement, qui sera amené à tuer Mister Négatif.
D'accord.
C'est sympathique, mais c'est tout juste un check-it, quoi. Pour le moment, le lien avec Spider Island, à part cette baston que l'on voit dans Amazing Spider-Man 667, il n'y en a pas. Mais c'est relativement bien écrit, c'est comme Nick Spencer.
Ouais.
Après, faut aimer le style de Emma Rios. Et c'est pas forcément mon truc non plus.
D'accord.
Histoire de terminer par un must de la semaine, que je te laisserai faire après, Benny.
Oui.
Je vais parler vite fait de Booster Gold 47, qui est donc le dernier épisode de la série Booster Gold, qui est tie-in à Flashpoint aussi. Danny Urgent au scénario, Rick Leonardi et Don Ho sur les trois quarts de l'épisode, et Danny Urgent et Norm Hammond sur les trois, quatre dernières pages. Alors, bah, ça finit ce qui était entamé dans Flashpoint, qui était très intéressant. Booster face à Doomsday, il était capturé. Donc là, on le retrouve face au général Adam. Nate Adam, hein, l'équivalent, enfin, l'alter ego de Captain Atom, mais qui dans ce monde de Flashpoint n'est pas devenu Captain Atom, mais celui qui contrôle Doomsday. Bon, ils vont s'échapper, ils vont réussir à vaincre Doomsday grâce à cet allié qu'il s'est fait dans ce nouveau monde. Et puis il va partir rejoindre Barry Allen en Angleterre, parce que il n'a plus assez d'énergie pour traverser les époques. Et donc, avec la Speed Force de Barry, essayer de regagner assez d'énergie pour pouvoir voyager dans le temps et essayer peut-être d'empêcher ce Flashpoint d'arriver. Et donc, on a une fin toute pourrie.
Ah oui, d'accord.
Toute pourrie. Je vais pas vous révéler la fin. Quoique si, c'est un gros pass. Donc, je vais vous dire la fin. Finalement, Booster retourne à Vanishing Point, donc la cité qui est perdue au fin fond du temps, c'est-à-dire à la dernière nanoseconde avant que le temps s'arrête. Et il n'a aucun souvenir de Flashpoint, et donc il revient au temps présent, c'est-à-dire qu'on revient pile poil avant cet événement qui le faisait basculer dans Flashpoint. Et on découvre aussi qui a écrit tous les avertissements sur le tableau. Mais ça s'arrête comme ça. C'est vraiment une fin miteuse. Booster Gold n'aura servi à rien dans Flashpoint, et c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant.
Ouais, mais par contre, j'espère que la fin de Flashpoint ce sera pas ça, quoi, que tout le monde revient pas dans le passé et ne se souvient de rien. Hein.
Là, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, tous les épisodes de Flashpoint que l'on a lus de Booster Gold, c'était une histoire qui était relativement sympa, mais de toute façon, ça n'a pas lieu, puisqu'il ne s'en souvient plus.
Oui.
Donc, franchement, c'est décevant de finir une si bonne série sur quelque chose comme ça. C'est vraiment grosse, grosse, grosse déception, donc un impasse total.
Ok. Alors, on va continuer dans les chefs-d'œuvre absolus. Mais alors là, pire que tout, puisque c'est quand même censé être l'événement de l'année chez Marvel, le fameux Fear Itself, le numéro 5, par Fraction et Immonen. Alors, le point positif, si on doit en trouver un, allez, les dessins d'Immonen. Mais cela dit, enfin, moi je suis peut-être dans une grosse, grosse minorité, je suis pas spécialement fan des dessins d'Immonen. Bon, soit. Cela dit, cet épisode est une sombre daube. C'est, je vais te la faire courte. C'est encore les héros, enfin certains héros, donc bon, bah, Thor, Captain America, qui affrontent encore les Warsi, et alors les mêmes, toujours les mêmes, c'est-à-dire le Hulk et le Ben Grimm. C'est toujours les mêmes qu'on voit.
Oui, les deux gentils.
Bah, les deux plus gros balèzes, quoi. Il manquait plus que Juggernaut pour qu'on ait eu la Trinité Warsi, qui justement ne valent absolument pas le coup.
Ouais, mais c'est parce que c'est des gentils, il faut les faire revenir dans le droit chemin, c'est pour ça.
Ouais, enfin bon. Et puis alors, c'est vraiment que des répliques de merde du style je suis le plus fort que tu crois. Voilà. Enfin, j'exagère à peine, hein. Franchement, enfin, Jean Dujardin aurait scénarisé le truc pour déconner, ça me surprendrait pas, quoi. Tellement
Ça fait
c'est du
plaisir de voir
fourna.
qu'on a confié les clés de la maison Marvel à Matt Fraction.
Non mais là c'est. Enfin, si Marvel ça se résume à ça, c'est-à-dire de la baston type DBZ, au secours, quoi. Parce que encore DBZ, il y avait un scénario derrière. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de scénario. C'est ni plus ni moins que de la baston et des scènes avec des répliques à la con, quoi. Vraiment bon. Je vois pas comment on peut. Enfin, je comprends pas. Il y en a qui ont aimé, mais je ne comprends pas comment on peut aimer ça, à moins de vraiment pas avoir. C'est pas être très regardant, quoi, tu vois. Genre. Bon, parce que là c'est pire que Transformers, quoi, par exemple, pour trouver l'équivalent ciné. C'est vraiment voilà, de la baston pour faire de la baston. Il se passe rien, il se passe rien. Ça se termine comme ça a commencé, quoi.
Bon bah la vie de Bunny, achetez-le, hein.
Voilà, non, non,
Je l'ai pas lu, mais j'en pense pas moins de toute façon.
c'est catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. C'est du foutage de gueule, donc au secours.
Un bel event Marvel. Ça fait plaisir d'en voir comme ça.
Voilà. Je pense que écrit par un gamin de 6 ans, le résultat sera à peu près le semblable, quoi.
C'est peut-être Matt Fraction Junior qui l'a écrit.
Bah peut-être. Parce que même le truc avec les poulets là, qu'on a lu l'autre fois, là, que j'avais lu, Axe Cop, voilà. Je pense que le scénario était plus abouti que ça. Hein.
Ça veut tout dire. Bien. Eh ben, on va se quitter sur cette franche rigolade.
Sur cette déception. C'est même pas une déception, c'est une catastrophe. L'apocalypse, quoi.
On va se retrouver la semaine prochaine. Juste avant, je vais quand même donner la toute petite réponse de mon fameux jeu de mollet de la semaine
Ah oui.
dernière. Donc la question, c'était quelle est la matière qui protège les meubles, entre autres, hein, et qui donne aussi le cancer? C'est donc le polype styrène. Voilà, c'est pourri. On va vite passer à autre chose.
Ouh!
Ah oui,
Ouh là 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 là
c'est
là
pourri.
là, c'est encore mieux que la tapasse, dis donc.
C'est un jeu de mots laid, quoi. Hein, c'est voilà, c'est très laid.
Il y a quelqu'un qui s'est trompé qui a dit les jeux de mauvais. Non, non, c'est les jeux de mauvais, oui, forcément, parce que c'est Steve qui le donne, mais c'est le jeu de mollet, il fallait comprendre.
J'ai beaucoup aimé le commentaire de Yesus, mais il n'avale pas. Hein.
Ouais.
Voilà,
Oui,
qui
oui,
m'a fait
oui.
beaucoup rire.
Oui.
Donc, voilà,
Bah, c'était
ça.
meilleur que la vodka
Ah bon.
tablac finalement.
En même temps, n'importe quelle blague est meilleure qu'un jeu de
Ouais.
mollet. J'ai envie de dire, voilà. Mais bon, c'est le principe. C'est moche. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Vous retrouvez tous les derniers épisodes sur iTunes, les plus anciens sur le site, bien évidemment. Et puis, on va se quitter avec le traditionnel mot de la fin. Bonnie, s'il te plaît. S'il te plaît. De toute façon, je n'ai pas d'autres jeux de mollets en stock, là, donc il faut vraiment que tu aies un mot de la fin.
Ah bah merde alors, parce que j'en avais un, mais comme je l'ai dit au début, il m'est parvenu. C'est terrible, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Ah, c'est terrible, je me souviens plus de mon mot de la fin. Alors, je sais pas quoi
Mais je crois que voilà, ce sera très bien comme ça.
C'était nul.
Une bonne imitation vaut tous les mots de la fin. Voilà. Ça finit en. C'est Fear Itself, ça finit en cataclysme, quoi. Mais il n'y avait pas de blague,
Non, non, il y a...
de toute façon. Non, mais j'avais l'impression que tu cherchais une blague sous-jacente, mais il n'y en avait pas. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
Ciao à tous.